VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est midi à Niamey, au Niger. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a mis en garde contre toute intervention internationale prématurée en Libye, rappelant les échecs essuyés par la communauté internationale en Somalie et en Afghanistan et a appelé à équiper l'armée nationale libyenne du général Khalifa Haftar. Le président égyptien propose une stratégie globale qui ne concerne pas seulement la Libye, consistant dans la défense de la région, dans la stabilité de tous les pays qui ne sont pas encore tombés dans le chaos. Et il prévient que les Européens risquent une vague de réfugiés deux ou trois fois plus grande qu'aujourd'hui. Dans trois jours, le deuxième jour de la présidentielle au Niger, lors du premier tour les 21 et 22 février dernier, de nombreux bureaux de vote avaient ouvert avec de grands retards, suscitant la colère de certains électeurs. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, dit avoir pris les mesures nécessaires pour rectifier le tir. On écoute Maître Oumarou Sanda Kadri, il est le premier vice-président de la CENI.
Actuellement, nous sommes en train d'acheminer tout le matériel électoral vers les régions et des régions vers les communes pour que, à la veille des élections, que les bureaux de vote soient dotés de tout le matériel électoral. Nous avons très tôt reconnu qu'il y a eu des dysfonctionnements par rapport au premier tour. C'est pour ça que nous avons pris les dispositions pour pallier à ces insuffisances, en commençant par faire un atelier qui a regroupé l'ensemble des présidents des régions ainsi que nos partenaires techniques pour faire le diagnostic des raisons de ce dysfonctionnement-là. Nous avons identifié à quel niveau nous avons eu ces problèmes et très tôt nous avons pris en charge pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Je pense que nous sommes pris très tôt cette fois-ci et nous pensons qu'il n'y aura pas de retard prochainement.
Le vice-président de la CENI nigérienne. Au Nigeria, nouvelle accusation de corruption contre l'ancien chef d'état-major des armées actuellement devant la barre. Il se serait acheté une maison pour 5,5 millions de dollars avec l'argent de l'armée de l'air. Chérubin Dorsil.
Alex Badé, 59 ans, est actuellement jugé devant une haute cour fédérale à Abuja dans le cadre d'une affaire de détournement présumé de 20 millions de dollars de l'armée de l'air nigériane en 2013. Un de ses anciens collaborateurs, Salisu Abdullahi Yushao, ancien directeur financier au moment des faits, a déclaré qu'il échangeait 558 200 000 naira en dollars chaque mois selon les instructions de son chef. L'argent détourné provenait des fonds destinés au paiement mensuel des salaires du personnel de l'armée de l'air. Yushao, qui a pris sa retraite en 2013, a affirmé avoir acheté des propriétés avec cet argent pour M. Badé et son fils, et notamment une maison d'une valeur estimée à 1 milliard 100 millions de naira, soit 5,5 millions de dollars, dans un quartier chic d'Abuja. Le juge Okon Abang a placé Alex Badé en détention provisoire et a journé l'affaire jusqu'au 23 mars. Arrêté fin janvier dans la vaste campagne anticorruption du président Muhammadu Buhari, l'ancien chef d'état-major des armées a plaidé non coupable la semaine dernière aux 10 chefs d'accusation de fraude, abus de confiance et blanchiment d'argent.
La France a livré hier à la Côte d'Ivoire plusieurs lots de médicaments et de matériel médical d'urgence d'une valeur de 30 000 euros pour la prise en charge des blessés de l'attaque djihadiste de Grand Bassam dimanche. Une attaque qui a fait, vous le savez, 19 morts et 24 blessés. Le résultat de l'élection présidentielle de dimanche au Congo n'est pas du tout connu d'avance, a assuré mercredi Thierry Mungala, le porte-parole du gouvernement de Brazzaville, promettant toutefois la victoire du président Denis Sassou Nguesso, Nani Talani.
D'après Thierry Mungala, le résultat de l'élection n'est pas connu d'avance parce qu'il faut laisser le peuple s'exprimer dans sa sagesse. Le 20 mars, le peuple va se prononcer librement, sereinement et de façon apaisée. C'est un match qui va se jouer sur le terrain et dont chacun devrait accepter les résultats, a-t-il dit. Le porte-parole du gouvernement a fustigé le comportement de certains candidats de l'opposition qui soutiennent qu'une victoire de M. Sassou Nguesso à l'issue du premier tour relèverait de la tricherie. Il estime qu'une telle attitude est une préparation des esprits à la violence et à l'insurrection. Pour lui, le président sortant est le seul candidat à battre une campagne digne de ce nom. Sassou Nguesso a promis à ses partisans de l'emporter dès le premier tour. Craignant des fraudes, cinq de ses rivaux à la présidentielle du 20 mars ont mis sur pied leur propre commission électorale pour compiler et proclamer leurs propres résultats.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
On vient maintenant au dossier de ce journal. Lors de la troisième conférence mondiale des jeunes parlementaires hier à Lusaka, l'Union interparlementaire a lancé le rapport sur l'état de la participation des jeunes dans les parlements, soulignant un taux extrêmement faible dans la plupart des pays. Ainsi, lors de l'Assemblée de l'Union parlementaire du 19 au 23 mars, des parlementaires du monde entier se réuniront pour tenter de trouver des solutions visant à remédier au faible taux de participation électorale des jeunes. Il faut rajeunir la démocratie en plaçant les jeunes au cœur même du processus politique, estime l'UIP, qui propose des quotas comme pour les femmes. Nathalie Bajajon à Lusaka en Zambie, le secrétaire général de l'UIP, Martin Chudeng.
Nous avons constaté qu'il y a un paradoxe au moment où le gros de la population mondiale est constitué de jeunes. Au niveau de la représentation politique, il y a beaucoup qui laisse à désirer. Et donc, il y a sous-représentation des jeunes dans la vie des parlements à travers le monde. Et cela est relevé dans toutes les régions du monde. Nous constatons qu'il y a une représentation des jeunes de moins de 30 ans qui s'élève à 1,9% de l'ensemble des parlements, c'est-à-dire des 45 000 parlementaires qui sont dans le monde.
D'où votre recommandation qu'il faut rajeunir la démocratie et vous pointez du doigt notamment la désillusion et le désintérêt des jeunes par rapport à la politique.
Oui, effectivement, il y a des raisons pour cela. Les jeunes estiment que les institutions de gouvernance ne répondent plus à leurs attentes et que leur voix n'est plus écoutée, que les décisions qui sont prises ne répondent pas aux intérêts des jeunes. Donc c'est pour cela qu'il y a des affections de la part des jeunes quand il s'agit de la vie politique normale. Cela, il faut changer. Je pense que c'est un problème qu'il convient de régler de façon urgente pour que les jeunes ne puissent pas se détourner de la vie politique normale pour s'engager dans des actions répréhensibles. Donc, nous recommandons plusieurs mesures, notamment l'instauration des quotas, des sièges réservés aux jeunes dans les parlements. Et cette expérience, ce mécanisme a fait ses preuves en ce qui concerne la participation des femmes. Et nous pensons que cela peut jouer aussi au niveau de la représentation de la jeunesse. Et puis, nous avons constaté qu'il y avait une restriction pour ce qui est de l'âge auquel les jeunes peuvent prétendre aux fonctions électives. Dans plusieurs pays, cet âge est très élevé, ce qui ne permet pas à la jeune génération de briguer des postes au niveau du Parlement. Donc nous avons proposé qu'il y ait une harmonisation entre l'âge de vote, c'est-à-dire l'âge auquel les jeunes peuvent voter, et l'âge auquel ils peuvent se présenter aux fonctions électives. Et nous allons plus loin, nous disons qu'il faut quand même baisser ces âges pour qu'on ait plus de jeunes dans les institutions de gouvernance.
Le secrétaire général de l'UIP, Martin Chudeng, était joint à Lusaka, en Zambie. Ici aux États-Unis, le président Barack Obama a annoncé son choix pour le 9e juge manquant à la Cour suprême. Il s'agit de Merrick Garland qui devrait, s'il est confirmé, remplacer le conservateur Antonin Scalia, décédé en février dernier. Les Républicains ont martelé qu'ils ne voulaient pas d'un nouveau juge à la Cour suprême, nommé par un président sortant, confirmant ainsi la dure bataille qui s'engage pour Merrick Garland. Dr Richard Conley, professeur de sciences politiques à l'Université de Floride, explique les risques pour les Républicains.
La situation qui est difficile pour les Républicains, c'est qu'il a écrit des opinions pour la majorité à la Cour d'appel à la District of Columbia et aussi les opinions contre la majorité. Donc il y a un corps d'opinion à laquelle on peut faire référence pour peut-être décider où il est dans cet univers partisan. Et peut-être il est un peu à gauche, mais vraiment pour le président Obama, c'est pas quelqu'un qui est un radical.
Le politologue américain Richard Conley. Crise migratoire, les dirigeants européens se retrouvent ce jeudi à Bruxelles pour tenter de finaliser un important accord avec la Turquie, mais dont le contenu suscite de fortes réserves, en particulier de la part de Chypre. Ce nouveau sommet sur deux jours ne commencera que ce soir à aborder la brûlante question de la crise migratoire. Jean-Roger Billon à ce micro, merci de nous avoir suivis. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes, en compagnie de Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.